Il est 14h dans le studio Louise Michel, Radio Libertaire, 89.4 et la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Attention, 14h. On va en effet vous proposer une tempête sur les planches. Et aujourd'hui, c'est le cinquième dimanche du mois. La tempête sur les planches, elle a lieu les deuxièmes, les quatrièmes et le cinquième du mois. Mais il peut y avoir tempête ou pas, selon arrivage, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il y a une belle raison de vous présenter une tempête. Radio Libertaire est la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et comme nous sommes un peu en hors-série aujourd'hui, on ne commence pas comme d'habitude, mais on se lance directement avec patapata, avec la fanfare africaine de Toups Bébé. Nous y sommes déjà dans cette tempête où on va raconter des histoires vraies aujourd'hui, des histoires de mariage noir en quelque sorte, et des histoires familiales. Mais avant de commencer, une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire une pétition en cours, qui est aussi en relation, la musique que vous entendez est en relation avec celle-là. Parce que si je me souviens bien, j'avais connu ces musiciens, Toups Bébé, à travers le La Voix Moderne Parisien. La Voix Moderne Parisien, théâtre à la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement, 35 rue Léon, géré par la compagnie Graines de Soleil. Et là, il y a actuellement une pétition en cours. J'ai reçu ça avec un peu de stupeur. Pétition contre l'expulsion de la compagnie Graines de Soleil. Et ça se passe donc au La Voix Moderne Parisien, 35 rue Léon, dans le 18e, je l'ai dit. Lieu historique qui a été décrit par Zola dans les pages de L'Assommoir. Et c'est un ancien lavoir authentique qui a été transformé dans les années 1960 en salle de spectacle atypique. Il a son cachet. On l'a souvent présenté. Les compagnies qui s'y sont produites et aussi son fondateur historique, Hervé Breuil. Et donc, ça a été toujours un lieu qui a travaillé un peu en lien et en osmose avec le quartier, avec la culture, beaucoup de cultures africaines et autres. Et alors, depuis septembre 2022, la compagnie Graines de Soleil, qui gère le théâtre depuis quelques années tout de même, est sous la menace d'une procédure d'expulsion intentée par Habitat Social Français, qui est le bailleur social de la mairie de Paris. Alors, je me souviens, et vous vous souvenez peut-être aussi, si vous avez suivi un peu l'affaire, si vous regardez un peu ce qui se passe dans les théâtres parisiens, il y a quelques années, la Voix Moderne Parisien, on l'avait défendu contre un spéculateur immobilier qui voulait s'emparer du lieu, et c'est la mairie de Paris qui l'avait sauvé en quelque sorte, qui se sent peut-être un peu trop propriétaire aujourd'hui du lieu et qui du coup se met dans la tête d'expulser la compagnie Graines de Soleil. Bon, alors ils disent la compagnie, ils disent que c'est un non-sens juridique, évidemment, non-sens moral qui interroge quant à la politique culturelle de la ville de Paris. Voilà, une mairie qui est prête à sacrifier le seul théâtre du quartier populaire prioritaire de la Goutte d'Or. Et voilà, vous pouvez trouver la pétition, vous pouvez la signer sur le site internet du Lavoir Moderne Parisien, c'est tout simple, lavoirmoderneparisien.com, Lavoir Moderne Parisien, tout attaché. Et dans la prochaine tempête, on pourra peut-être aborder la situation plus en détail avec la compagnie. Mais cette fanfare rappelle bien les parades dans le quartier qu'on a pu vivre justement à partir de la voie moderne parisienne. Là-dessus, je salue Stéphane Olry et Marisa Gnandao Di Simon. Et si on a dit ce nom-là, on est déjà au cœur de l'histoire, c'est en vrai. Quelque sorte, puisque c'est une histoire authentique qui vous concerne tous les deux et vous nous présentez un spectacle au titre un peu ambivalent, un peu provocateur, un peu. Ouais, ça s'appelle Les petites épouses des Blancs. / histoire de mariage noir. Et on est dans une histoire ou des histoires ou dans l'histoire coloniale française. Et pour présenter ça sur le site internet, là où on annonce le contenu des émissions, hein, je vous invite tous à y aller, à regarder. Là, j'ai dit, il s'agit de décoloniser les historiques familiaux. Je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, c'est bien.
Et donc, je vous salue, Marisa et Stéphane.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Libertaire.
Bonjour.
Donc, vous allez nous présenter ce spectacle, ce duo, vendredi, samedi, dimanche prochain au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie, et puis plus tard au palais de la Porte Dorée, au palais, au musée de l'immigration, etc. Et voilà, alors Stéphane, je t'avais connu avec Corinne Miret qui va nous rejoindre, je pense, tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'années, c'est un grand plaisir de vous retrouver, et je me souviens que vous aviez fait à l'époque un spectacle qui a vraiment fait un effet énorme. Vous aviez travaillé à partir de cartes postales que les gens avaient envoyées depuis leur lieu de vacances, et c'était comme ça, vous aviez fouillé dans chez les bouquinistes, le marché Opus, etc. Et vous aviez comme ça fondé ce mélange de quelque chose de documentaire et quelque chose de poétique, d'une rêverie en même temps. Et aujourd'hui, vous allez un peu dans la même direction, je pense, et vous avez fouillé vraiment, Marisa et Stéphane, tous les deux, dans votre histoire familiale.
Ah oui, on peut dire ça, oui. On peut dire ça, une histoire familiale, c'est vrai qu'on est. C'est pas l'histoire familiale dans laquelle on a le plus envie de se plonger, en fait. C'était pour ça que ça a pris un certain temps. Alors, en tout cas, moi, si je n'avais pas rencontré Marisa, je n'aurais pas pu aborder ce sujet. C'est à l'initiative du projet, le moteur, c'est Marisa, quand elle s'est présentée avec ce livre qu'on ne peut pas voir à la radio, mais qui s'appelle Souvenirs de Brousse. 1905-1918 par Marc Simon avec un masque africain en couverture qu'elle m'a donné à lire en me disant que c'était son arrière-grand-père qui l'avait écrit, qu'il était fonctionnaire colonial, qu'elle avait découvert ce livre récemment et qu'elle voulait savoir ce que j'en pensais. On se connaît depuis un certain temps avec Marisa, hein. Donc voilà. Et bon, je me suis dit, si elle me le fait lire, c'est qu'elle a une bonne raison de me le faire lire. Et voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais donc ce livre. Je savais qu'il existait, puisque dans ma famille, on le racontait, de ma famille africaine, la famille de mon père. Mon père en parlait des fois vaguement, mais bon, je l'avais pas. Donc je l'ai cherché en fait sur internet et j'ai pu le commander sur internet. Et quand je l'ai lu, en fait, je m'attendais pas à ressentir une telle violence. Je pensais pouvoir le lire avec avec beaucoup de recul. C'était une histoire finalement qui datait des années. Du début du siècle, etc. En fait, je l'ai pris vraiment dans le ventre.
Et alors, Qu'est-ce que c'est ce livre? De quoi est-ce qu'il
Alors,
parle?
Ce livre, c'est donc un livre qui a été écrit par Marc Simon, mon arrière-grand-père, que j'ai jamais connu, hein. Qui donc était je sais pas, il devait avoir 20 ans et il a été fonctionnaire colonial et c'est son premier poste, ça raconte son premier poste en fait, donc qui était dans un pays qui s'appelle maintenant le Bénin et que à l'époque s'appelait le Dahomey. Et donc, il raconte en fait ce livre comme s'il était un aventurier, voilà. Et donc, il faisait partie de ces coloniaux qui étaient paternalistes, donc avec soi-disant une espèce de pseudo-affection pour les Africains, qui trouvent finalement très gentil, bon, pas très intelligent, mais très gentil, etc. Et donc, il est vraiment conscient de sa mission civilisatrice, et c'est ça qu'il raconte à partir de notes qu'il a écrites à ce moment-là, donc on est en 1905-1906, qu'il a dû ramener ensuite quand il est rentré en France, et le livre a été publié en 60. Il me semble, ou même peut-être même
oui,
encore après.
60,
ouais, je me demande même si c'est pas 65. Donc vraiment à un moment où on est en plein dans l'indépendance des pays subsahariens, mais lui, ça, enfin voilà, il reste vraiment droit dans ses bottes par rapport à la mission civilisatrice qu'il a effectuée. Dans ce livre, évidemment, il ne parle pas de ma famille, de mon arrière-grand-mère africaine. Et donc, du coup, ce livre me fait violence. Et je me dis, si ça provoque ça chez moi, je suis pas isolée. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose de violent dans cette histoire-là. Et que et finalement, on en parle très peu. Et je découvre qu'il y a plein de choses dont je ne suis pas au courant. Et je commence à en parler à mon père, à mes oncles, à réaliser beaucoup de choses sur cette occupation coloniale qui les a, bon voilà, qui eux du coup concernent leur enfance en entier, hein, toute leur scolarité en fait. Mon père et mes oncles ont fait toute leur scolarité sous l'occupation coloniale. Et voilà, et je me dis bah qu'est-ce que donc moi je suis chanteuse, comédienne. Plutôt chanteuse à cette époque-là, mais voilà, et je me dis qu'est-ce que je peux faire de ça, j'ai envie de le transmettre, parce que ça veut dire que s'il y a violence dans moi, j'ai 50 ans à l'époque, mais je me dis la génération d'après, donc de mes filles, mais aussi donc des enfants de cet âge-là, peut-être c'est encore pire, parce que peut-être que on ne leur en parle pas dans la famille, donc voilà, et c'est pour ça que je m'adresse à Stéphane, qu'effectivement je connais depuis bien longtemps, plutôt en tant qu'ami et en tant que, bah voilà, comme vous l'avez dit, directeur de la revue Éclair, travaillant, voilà, cette façon de travailler aussi sur du réel. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me répond?
Ben, je lui réponds, je lis le livre. et je lui dis, bah oui, il n'y a rien d'étonnant. Enfin, il n'y a rien qui m'étonne, moi. Parce que bah, ce genre de discours, je les connais un peu, puisque mon propre arrière-grand-père a aussi été colonial. Alors lui, il n'était pas fonctionnaire, hein, c'était un planteur, il plantait du cacao, et c'est pas au même endroit. C'était au Gabon, alors que l'arrière-grand-père de Marisa était au Dahomey. Mais bon, par contre, il y a une pratique commune qui est celle de ce que dans ma famille, on appelait des mariages noirs, et que j'ai compris que dans la famille de Marisa, on n'appelait pas comme ça du tout. Donc déjà, il y avait une grande différence. C'est-à-dire, en fait, c'était un peu un sujet d'exotisme, de quelque chose de pittoresque, c'est-à-dire, ah oui, grand-papa, alors chaque fois qu'il arrivait dans un port en Afrique, il contractait un mariage avec une belle indigène, et puis bon, bah, quand il repartait, il donnait de la verroterie à cette femme, et pour la consoler, et voilà, et il allait dans un nouveau port, et tout était très bien. Et bon, voilà, donc tout le monde rigolait autour de la table, on trouvait, ah, sacré grand-papa, c'est vraiment une histoire rigolote, hein. Et puis bon, alors, il y avait quand même un petit malaise, effectivement, c'était du côté de mes tantes, ma grand-mère, qui rigolait un peu moins, qui disait, ouais, enfin, il paraît quand même, il a laissé des enfants derrière lui. Ah, alors ça, c'était un problème. C'était, en fait le gros problème. C'est la deuxième famille, ou enfin on peut, en tout cas probablement au moins une au Gabon, que l'arrière-grand-père aurait laissé. Donc le contexte de ces petites épouses, alors ça c'est le terme que m'a appris Marisa, qui a fait beaucoup de recherches, hein, j'ai appris beaucoup grâce à elle. Ça c'était comment dire, c'était très très commun. C'est pas, je veux dire, ça peut être des secrets de famille, mais Marisa a trouvé des guides de voyage qui sont un peu l'équivalent du guide de Ruta aujourd'hui, où on vous explique, bah voilà, c'est voilà comment pour éviter les dangers de la prostitution, de sombrer dans l'alcoolisme, et ben c'est bien d'avoir une compagne, donc faut bien la choisir. Voilà comment on les choisit. Il y a des bouquins où même elles sont classées par race, en fait, pour dire les choses, c'est-à-dire lesquelles sont les plus propices. Donc c'est très cynique, hein, c'est incroyable, c'est comme ça raconté. Bon, c'est assez dégoûtant, au bout d'un moment ça tombe un peu des mains, et en tout cas ce qui est certain, c'est que dans le livre effectivement de l'arrière-grand-père de Marisa, dans Souvenir de Bruce, il ne parle à aucun moment de la petite épouse, je mets des guillemets, c'est difficile à voir à la radio, hein, qu'il a eu au Dahomey, et sur non plus des enfants qui en ont été issus. Et personnellement, je trouve que la principale violence, elle est là. Elle est dans le silence. Et on y participe, enfin bon, bref, je vais pas m'étendre longtemps, mais on y participe tous de silence. Donc on s'est dit, bon, il y a un moment, c'est bien, on porte le sac du secret de famille, bah, si on l'ouvrait ensemble.
C'est ça.
Voilà.
Maintenant, est-ce que c'est un spectacle que vous avez déjà pu présenter plusieurs fois ? Beaucoup, pas beaucoup.
Oui, on l'a joué. En fait, c'est une commande du théâtre de la Poudrerie, le théâtre des habitants, qui se situe à Sevran dans le 93. Et donc l'équipe du théâtre de la Poudrerie, en fait, on a joué ce spectacle chez l'habitant. Voilà, donc vraiment dans des appartements et des maisons de la ville de Sevran. Et donc on l'a joué déjà une cinquantaine de fois.
C'est bien sûr, c'est très intéressant de mettre comme ça les gens face à une histoire coloniale, à un passé, à ces relations et au caractère très ambivalent de ces relations. Mais quand les gens sont confrontés à ça, comment est-ce qu'ils réagissent ? Puisque il y a aussi, chez vous, si j'ai bien compris, une dimension un peu interactive, participative. Mmh. Parce que je pense que votre objectif, c'est aussi que les spectateurs qui viennent vous écouter, qu'ils prennent conscience et qu'ils rentrent dedans et qu'ils s'identifient à cette histoire et qu'ils comprennent que cette histoire que vous décrivez, c'est aussi leur histoire.
Mmh. Bah, en fait, on a eu, je pense, pour simplifier, vraiment, comme s'il y avait deux spectacles différents, suivant si on jouait dans des familles africaines ou pas. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que quand on a fait ces recherches sur nos propres familles et parallèlement aussi sur, on va dire, l'histoire coloniale et sur l'histoire notamment des métis et la façon dont le statut entre guillemets des métis avait été traité par la République, qui a changé suivant les années, etc. Bon, ça a été toute une enquête. Et ensuite, quand on a écrit le spectacle en lui-même, donc qui était commandé par le théâtre de la Poudrerie, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de matière que finalement le spectacle pouvait durer 4 heures, sauf que voilà, on était chez l'habitant et il fallait qu'il dure 1 heure. Donc un peu pour simplifier et aussi pour faire du théâtre, on a inventé une histoire. Et dans cette histoire inventée à partir de nos vraies histoires de famille, on a imaginé que Stéphane Olry et moi-même étions vraiment cousins. Voilà. Et c'est ça qu'on raconte. C'est l'histoire de, c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée, sauf qu'on on serait vraiment cousins et qu'on a donc le même arrière-grand-père Marc Simon, qu'on a, qui se nomme encore Marc Simon. Et voilà. Et il se trouve que ça marche et que les gens le croient. Et donc, c'est quand on a joué dans des familles africaines, je pense qu'on a senti tout le temps de la pièce une hostilité. Enfin, tu m'arrêtes si je vais trop loin, mais une hostilité, bien sûr, due à la colère. Dû à la colère de ces choses-là qui sont si peu dites, ce qui n'était pas le cas quand on jouait dans des familles françaises, voilà. Et donc il y avait et donc le spectacle ne retentissait pas du tout de la même manière et ne
ah oui, ouais, l'identification n'est pas la même. Mais alors quand vous faites ça dans une famille entre guillemets française, donc et Stéphane, l'identification n'est pas la même, mais il y a eu, comme tu dis, dans le cercle familial, autour de la table, au déjeuner, etc., des moments de malaise. Et là, quand vous le présentez à un public français, est-ce que les gens réagissent par le dédouanement, en disant ah oui, ça c'est une histoire très ancienne, ça ne nous concerne pas, c'était d'autres personnes, ils s'en lavent les mains, ou est-ce que comment est-ce qu'ils réagissent?
De toute façon, moi, ce qui nous a étonné tous les deux, encore une fois, Marie-Jean se connaît bien, c'est-à-dire et depuis longtemps. Mais moi, j'étais très. on a été étonné de nos réactions au cours de l'enquête. C'est-à-dire, moi, j'ai réalisé. D'abord, on n'avait pas les mêmes réactions. C'est-à-dire que Marisa, il y a des tas de choses qui la mettaient très en colère. et moi, ça ne générait pas tant de la colère que de l'embarras. Et c'est celui qui a mis le doigt là-dessus, parce qu'on a aussi travaillé avec un ethnopsychiatre qui s'appelle Charles Dick, qui est camerounais, et qui a vraiment présenté les choses ainsi. Il dit vraiment, il y a un côté où il y a de la colère, de l'autre, de l'embarras. Et je pense que, sans parler au nom d'une communauté qui n'existe pas, qui je ne tiens pas du tout à voir exister, je pense que oui, dans les familles françaises, encore une fois, entre guillemets, etc., il y a de l'embarras. Donc après, chacun essaye de faire avec cet embarras de manière différente, comme dans les familles africaines. Ce qui sera sans doute probablement commun, c'est la colère, mais après, elle va se traduire de tas de manières différentes. Des fois, les gens, quand ils sont en colère, ils préfèrent en rire. Et les gens, quand ils sont embarrassés, ils vont inventer des tas de stratégies pour faire avec ce passé. Et puis, aussi, c'est quelque chose qui revient un peu en boomerang. Parce que comme c'est quand même quelque chose qui a été bien mis sous le boisseau, forcément, quand on l'ouvre, quand on ouvre le paquet qu'on nous a transmis, forcément, il y a un peu un effet de déflagration. Déflagration nécessaire, hein. Enfin, je veux dire, bon. Mais c'est évident que. En tout cas, nous, ce qu'on a pour répondre, pour répondre à ta question, en tout cas par rapport à l'écriture, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des moments de conflit. Parce que forcément, on s'identifie aux histoires qu'on raconte et aux personnages, et puisqu'on n'en est pas si loin que ça, hein. Mais on s'est dit, ces moments de conflit, on va vraiment les garder. On va les garder, on va les mettre en scène, on va les montrer. Bon, le théâtre, c'est pratique. Hein. Le théâtre, ça aime bien les conflits, quand même, en général. Quand les gens, quand les gens s'engueulent sur scène, ils ont des choses à se raconter. Mais là, ça nous paraissait vraiment important de ne pas dire « Ah, il y a une réalité ». Moi, je crois que la vérité, ça existe, cela dit. Mais on la présente sous une forme, conflictuelle. Il y a du dissensus. Et de toute façon, comme on disait dans les années 60, on ne parle pas du même lieu. C'est-à-dire, je ne peux pas me mettre à la place de Marisa et Marisa ne peut pas se mettre à ma place. On ne peut pas échanger nos places. Et heureusement, tant mieux, dans une certaine mesure. Mais donc, après, il faut qu'on fasse avec, quoi.
Et puis, personne ne peut se mettre à la place de ces femmes en Afrique. Et elles n'ont jamais eu la parole.
Jamais, oui. C'est ça, c'est que comment, je pense que ça a été aussi toute une question, de comment, comment on peut, comment je pouvais parler à la place de mon ancêtre, que j'ai connu mais que j'étais toute petite, j'avais 4 ans, et donc évidemment qui ne parlait pas de ça, de toute façon. Il se passe que dans ma famille, et je pense que... Il y a eu toutes sortes de façons de traiter ces enfants métis. Ma famille, grâce à cette aïeule dahoméenne, en fait, ces enfants ont eu un parcours, j'aime pas ce mot, mais privilégié, dans le sens où ils ont fait des études. Voilà. Donc, du coup, ma famille fait plutôt partie des métis qui représentent une espèce de bourgeoisie en Afrique de l'Ouest. Et donc l'histoire qu'on se raconte dans ma famille, elle est plutôt, c'est une légende un peu rêvée de, en fait mon arrière-grand-mère aurait eu, moi ce que j'avais quand j'étais petite, c'était qu'elle avait eu une histoire d'amour avec un blanc et qui s'était marié et que grâce à ça, mon oncle et mon père avaient, mes oncles et mon père avaient eu, avaient pu faire des études, etc. Bon, finalement quand j'ai mené l'enquête auprès de ma famille, je me suis rendu compte que c'était pas vrai, tout simplement, puisqu'il avait abandonné mon arrière-grand-mère au bout de 2 ans, au bout de 2 enfants, et qu'il les avait pas reconnus, qu'en fait on n'était pas, du coup, mon père n'avait pas la nationalité française, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu avoir la nationalité française parce qu'en réalité il n'avait pas les papiers pour l'obtenir.
Et pas les tests génétiques.
Il a pas demandé de tests génétiques parce que justement il était très en colère en réalité, et ça je l'ai découvert à la fin de sa vie. Quand il m'a raconté cette histoire du livre, par exemple, où en fait avec ses cousins sont allés voir Marc Simon qui habitait, qui était rentré en France depuis belle lurette, l'arrière-grand-père français en Bretagne et qu'il a fait semblant de ne pas les reconnaître. Et ça, c'est l'humiliation. Voilà, ça c'est l'humiliation qui était contrebalancée par cette légende un peu, on dirait résiliente maintenant, de ça a été formidable, voilà. Bon, et je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, et donc du coup, moi, j'étais très en colère. Voilà, on parlait de mon arrière-grand-mère, j'étais très en colère. Et donc, pendant tout le temps de l'enquête, je la voyais comme une victime. Une victime de cet homme, une victime de cette période coloniale, de cette occupation. Et puis, quand on était vraiment dans le processus d'écriture... J'ai eu une apparition et un rêve où finalement elle m'engueulait, parce que en fait durant toute cette enquête j'ai compris au moins une chose, c'est que cette femme était une très très forte femme, qu'elle avait absolument rien lâché, qu'elle avait travaillé toute sa vie, c'était servi en fait du fait d'avoir eu cette aventure avec ce blanc pour avoir un petit pécule et du coup acheter, enfin s'en servir pour s'acheter des maisons, etc., qu'elle a légué à ses enfants, qu'elle n'a jamais rien lâché sur les études qu'avaient pu faire ses enfants et ensuite du coup ses petits-enfants, et que moi j'héritais de cette chose-là et de cette force, et que donc on pouvait pas raconter cette histoire avec ces femmes en disant cette pauvre femme qui a été violée par un blanc, parce que ce n'est pas la réalité. C'est effectivement, elle n'a pas parlé, mais en fait sa vie parle en fait et raconte une force.
Alors Marisa Gnondao Di Simon, est-ce que tu peux nous décrypter ce patronyme? Comment est-ce que ça se crée un nom pareil?
C'est compliqué. Déjà, bon, je passe très très, très longtemps à pas trop savoir. Finalement, bon, je vais directement à la conclusion. Mon père naît en 36. Son père, qui est le fils de cette femme dont on parle, dahoméenne, va reconnaître l'enfant et dit, il s'appelle Marc Simon. Puisque mon père s'appelait Marc Simon. Marc, son prénom c'était Marc, comme mon arrière-grand-père. Et là, l'officier de l'état civil des colonies dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous appelleriez Simon, vous n'avez pas les papiers. Vous êtes les enfants de la Nyandaho. Et donc moi, très longtemps, j'ai cru que Nyandaho était le nom de mon arrière-grand-mère. nom de famille. Et il se trouve qu'à chaque fois que je disais un béninois, non, mais en fait, mon vrai nom, c'est le nom de mon arrière-grand-mère, c'est Nyondaho. Non, ça, c'est un nom qui n'existe pas au Bénin. Hein. Ce n'est pas un patronyme béninois. Donc, c'est quand je suis allée au Bénin que j'ai compris que la Nyondaho, c'est en fait, ça veut dire une femme notable, en fait. Et en réalité, ce sont les chefs de clan vaudou, voilà, qui s'appelle Nyondaho. Donc en fait, il s'avère que mon arrière-grand-mère était une femme importante et très certainement, du coup, alors que dans ma famille, par la suite, tout le monde est devenu très, très catholique. Je pense qu'à l'origine, elle était vaudou, comme plein de gens à Ouida, hein, puisqu'elle vient de Ouida. Et voilà, et en fait, c'était une femme aussi forte au sens de, je pense qu'elle était l'héritière d'un des clans de Ouida, vaudou.
Bon, alors, les petites épouses des Blancs, histoire de mariage noir, un spectacle documentaire, comme on a bien compris en vous écoutant. Maintenant, quand l'histoire personnelle croise la grande histoire, et en l'occurrence l'histoire coloniale, ça donne toujours du très bon théâtre passionnant. Voilà. Alors, c'est le 4 novembre, vendredi à 21h, samedi 5 à 16h30 et 21h, et dimanche 6 à 16h30. Ça, c'est les dates les plus proches à venir au théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie. Et on va faire une petite pause, et après, on continue, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et vous dites même, en présentant le spectacle, qu'à l'issue du spectacle, les spectateurs sont invités à dialoguer avec les deux protagonistes, donc avec vous-même, ici présents dans le studio, sont invités donc à dialoguer de l'affaire, car les questions soulevées sont nombreuses. Alors ça, c'est un euphémisme. We'll be right back.
Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître. Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Radio Libertaire 89.4, cette tempête sur les planches avec Thomas Dambourg. On reprend notre conversation en direct dans le studio Louise Michel, Radio Libertaire, au sujet d'un spectacle qu'on peut revoir à partir de vendredi prochain, qui s'appelle Les Petites Épouses des Blancs, histoire de mariage noir, de et par Marisa Gnandao di Simon et Stéphane Audry. Tous les deux sont ici, et le regard extérieur de Corinne Miret, qui va peut-être nous rejoindre, on ne sait pas encore. Mais de toute façon, on va, disons, autour de 15h, on va conclure. Mais voilà, alors nous avons par exemple évoqué dans cette histoire, donc, qui est une histoire familiale et coloniale authentique, et cette histoire de relations entre les colons français en Afrique et les Africains, et surtout les Africaines, concernées. Vous l'avez donc présenté à la fois, aussi bien dans... face à des publics plutôt africains et des publics plutôt français. Mais connaît-il du public justement un peu mixte, métis, comme toi, Marisa, qui ont peut-être encore une autre approche, d'autres sentiments par rapport à cette histoire, qui vivent une autre réalité aujourd'hui en France, justement quand je pense aussi aux artistes, aux comédiennes, comédiens, qui sont aussi dans une situation où il est, parce que je le sais, parce que j'en connais aussi, il n'est pas facile de trouver des rôles où on est souvent pour une pièce française et ben trop typé, et pour une autre pièce on ne l'est pas assez, etc. Et c'est aussi des personnes qui vivent quelque part dans, je sais pas, dans un no man's land. Et est-ce que ces personnes-là se sont aussi manifestées par rapport au spectacle, par rapport à leur histoire, par rapport à... Donc toute cette histoire de ces enfants mixtes, métis, et issus de ce genre de relations.
Je dirais qu'il y a, enfin, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait d'être métisse. À l'heure actuelle, qui, moi, en fait, je suis double. On va dire que j'ai une double histoire de métissage, puisque mon papa donc est issu de ce métissage colonial, mais sa maman à lui était malienne, donc. Il avait l'aspect d'un homme noir, on va dire, si ça veut dire quelque chose, et ma mère est française. Donc j'ai aussi ce métissage plus récent. Donc oui, pour répondre à ta question sur le fait d'être comédienne, et effectivement, j'espère que ça tend à... que ça tend à s'ouvrir, enfin je le vois, parce qu'il y a aussi des gens qui militent pour ça et que les choses changent. Mais le fait est que quand j'étais jeune comédienne... C'était un jeune comédienne, surtout dans le cinéma en réalité, parce que mon parcours de comédienne fait que ça n'a pas été tant un souci que ça dans ma vie de comédienne. Mais par contre, j'ai essayé de passer, enfin, des castings, etc. Et effectivement, on pouvait prendre une noire, mais il fallait qu'elle soit vraiment noire. Ou alors, bon, donc j'avais des questions. Est-ce que vous pourriez éventuellement avoir un, être maghrébine? Enfin, non, pas vraiment non plus. Donc, non. Voilà, effectivement. Donc, en tout cas, c'était le cas dans les années 90. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas complètement résolu, mais je sais que les comédiennes notamment, et aussi les comédiens, luttent pour ça, et que c'est en train de changer, mais c'est très long.
En fait, sur les relations, le retour des spectateurs, moi je suis très impressionné, parce que c'est plutôt des gens qui vont voir Marisa que c'est moi, vrai. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. Plutôt des jeunes femmes, je dois avouer. Bon, voilà, c'est au bout de 50 spectacles, on se rend compte de choses comme ça. Métis, et qui viennent voir Marisa en disant « c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille. Ah, enfin, j'entends parler de cette histoire, je veux faire aussi des recherches. » Et une sorte de... Plein de gens qui viennent nous voir en disant « ah, j'ai réalisé ça. » Alors qu'ils le savaient très bien, qu'ils étaient, forcément, c'est des gens, ils savaient très bien qu'ils étaient métis. Mais là, vraiment, il y a une recherche dans ce passé où il y a une nécessité, j'allais dire, de faire la lumière, d'éclaircir, je ne sais pas comment dire, mais de mettre les choses au net, en quelque sorte. C'est plus compliqué. Bon, c'est marrant, je suis à Radio Libertaire, je dois faire un aveu. J'ai une particularité bizarre. Chaque fois qu'il y a un facho, il essaye de sympathiser avec moi. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais avoir une tête à plaire aux fachos, ou aux gens réactionnaires, ou je sais pas, tout, ou les anciens colons. Mais à chaque fois, ils sont persuadés que je suis d'accord avec eux. Enfin, voilà. Donc, bon. Ils ouvrent leur cœur, généralement. Bon, bon moi, ça ne m'enthousiasme pas spécialement, mais bon. Et le fait est que c'est un discours, je l'ai entendu, je le connais. Ce qui m'a frappé sur les retours des spectateurs, c'est de voir à quel point on retombait souvent sur les mêmes topos. C'est-à-dire... dans le spectacle, on revient sur l'esclavage, sur la traite, comme étant vraiment un des moments fondateurs de cette affaire. Il y a toujours un spectateur pour venir nous dire « Ah oui, mais attendez, il n'y a pas eu de la traite uniquement du côté... la traite n'aurait pas pu avoir lieu si les Africains ne l'avaient pas fait. » Premier point. Deuxième point. Et puis les Arabes aussi, ils faisaient de la traite, comme si... Bah, bon, ok. Ça revient tout le temps. Il y a effectivement le côté aventurier, c'est-à-dire quand même votre arrière-grand-père, il était courageux. Il, Il a survécu, il a passé 30 ans là-bas, il avait, bon, c'était dur. Et ça, je l'ai retrouvé dans le livre de Marc Simon. C'est-à-dire, il y a toute une idéologie, parce que quand même, tous ces gens, ces coloniaux, dans une certaine mesure, ils étaient dans une époque, ils croyaient à des choses.
C'était des aventuriers.
Oui, bien sûr. Ouais. Et les bouquins, c'est les mêmes. Oui. C'est les bouquins qu'il dit qu'il a dans sa bibliothèque, c'est les mêmes que ceux que j'ai trouvés dans la bibliothèque de ma famille. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça ne s'appelait pas Tout l'univers, mais Connaissance du monde. C'était des récits d'aventuriers reliés comme ça, exactement les mêmes. Ça, on l'a dans plein de familles. Jules Verne, bon, Fenimore Cooper. Alors bon, c'est une jeune indienne qui va être l'amante d'un colon blanc, et puis elle, au moment où elle pourrait avoir un enfant, elle a la bonne idée d'être tuée, de mourir, donc comme ça au moins tout finit bien dans une certaine mesure. Donc il y a plus le problème. Oui, c'est ça, c'est bien quand oui, c'est ça, c'est quand les colonisés ont la bonne idée de mourir juste au moment où il faut. Ça, c'est vraiment, on aime bien dans les récits. Donc ça, on l'a beaucoup dans les bibliothèques. Et tout ça, c'était vraiment des choses dans lesquelles il croyait forcément, puisque c'était dans les livres, et ils étaient... Marc Simon, dans son bouquin, alors ça énerve beaucoup Marisa, mais il est persuadé de faire le bien. Il construit des routes. Le travail forcé, il ne le voit pas. Il dit, c'est pas terrible, il faudrait un peu les payer quand même. Ça, c'est un peu embarrassant, mais c'est bien de faire des routes. Il y a des amis qui lui disent, quand la France quitte le Mali, il y a une seule route qui fait 500 km qui a été construite. Le Mali, c'est un pays immense. Donc, ça fait rigoler, quoi, ces histoires de routes.
Et cet arrière-grand-père en question, là, c'est ce que tu dis, mais il a acheté une île.
Ouais, le mien, ouais.
Il a acheté une île, là, mais... Comment ? Pourquoi ? Il a payé quoi ? À qui ?
Bon. Alors, tu avais des systèmes de concessions. On appelait ça, c'était des concessions, c'est-à-dire que, ça c'est tout l'indigénat, c'est-à-dire le statut de l'indigénat, c'est-à-dire le système de propriété n'est pas le même pour les indigènes que pour les blancs. Donc, si les indigènes n'utilisent pas un terrain, ce qui veut tout et rien dire, c'est-à-dire s'ils ne font pas des plantations avec des sillons bien droits comme dans la Beauce, on pense qu'ils ne les utilisent pas. Donc dans ces cas-là, ces terres sont considérées comme inutilisées, donc elles peuvent être mises en concession. Donc l'État vend ou donne... Oui, elle vend une concession pour 10 ans, généralement. Ça, c'est l'histoire de le barrage contre le Pacifique, où la mère de Marguerite Duras se fait vendre une concession pourrie, où il y a la mère qui la recouvre tous les ans, donc elle peut rien planter. Bon, bah, lui, il a une concession, c'est cette île, où il va y planter du cacao, et puis aussi sur les terres du bois d'Okoumé, qui sont le bois qui permet de faire du contreplaqué.
Mais ça, c'est un point qui doit faire bondir le public.
Ah, mais il y en a plein des poids si on commence à raconter le colonialisme.
Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'on a effectivement, à partir de nos histoires, après fait des recherches, ça, et effectivement, on n'a pas cessé de bondir, hein, comme tu dis. Et il y a effectivement, il y a ce côté des terres, mais il y a aussi, en fait, on s'est demandé comment c'était possible, comment les gens avaient pu accepter ça. Et en fait, c'est toujours la même histoire. C'était la même chose déjà pour l'esclavage. Et je suppose que c'est toujours la même route pour toutes les occupations. C'est qu'on est obligé, pour que ça marche, il faut faire de la propagande. C'est-à-dire que pour arriver à occuper des pays et à servir des gens, il faut avoir dans la tête qu'ils sont inférieurs à nous. Sinon, on n'a plus envie de le faire. Et donc, du coup, on a, en faisant ces recherches, on a réalisé que cette propagande raciale, elle avait été assez raffinée et sur beaucoup de plans. Donc, sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan social, mais sur le plan scientifique, elle a été assez incroyable. Et
je peux vas-y. Parce que en fait, Marisa a passé rapidement sur le métissage, etc. Par exemple, il y a plein de gens qui n'hésitent pas à demander à Marisa, mais alors vous êtes un carteron. Alors carteron, le mot, vraiment, il dit beaucoup. Carteron, bon, c'est ça, hein, c'est un double métissage, ok. À l'origine, c'est un terme qui vient de l'élevage des animaux. Hein. Et ensuite, il est transposé, il est rentré dans la langue française pour spécifiquement, effectivement, les esclaves. Et on trouve encore plein de gens qui l'utilisent, mais en toute bonne foi. Hein, on presque en voulant faire un compliment à Marisa, et sans se rendre compte de la charge qu'a ce mot-là. Et personnellement, je ne enfin, sais pas si j'aurais pu l'utiliser, je ne m'en rends pas compte en fait. Mais je pense que si on ne se penche pas sur les trucs, il y a plein de trucs comme ça qu'on fait, de manière de penser, qu'on fait de manière, je n'allais pas dire inconsciente, mais c'est un pli qu'on a et qu'on croit naturel en quelque sorte. Au bout d'un moment.
Alors vous voyez qu'il y a énormément de choses à aborder, de sujets, de thèmes, de souvenirs, d'histoires derrière les histoires dans cette affaire. Et donc ça peut donner beaucoup de discussions après le spectacle. Le spectacle, c'est un peu, j'imagine, la discussion entre vous deux. Et entre-temps, Corinne Miret nous a rejoint. Corinne, je te salue. Corinne qui est cofondatrice de la compagnie qui s'appelle La Revue Éclair. Donc La Revue Éclair, aujourd'hui sur Radio Libertaire, c'est pas la première fois qu'on se rencontre ici. Et alors Corinne, toi, de quelle façon est-ce que tu as participé à cette création et qu'est-ce que tu as apporté ?
Alors en fait, j'ai accompagné Marisa et Stéphane à certains moments de l'écriture où ils m'ont lu le texte en cours de construction et où je leur disais ce que moi j'entendais, je comprenais les points sur lesquels je ne comprenais pas du tout ou peut-être ce qui nécessitait plus d'explications ou de creuser plus à certains endroits. Et puis c'est surtout en fait après, dans l'histoire de la mise en scène, une fois que le texte était relativement écrit, je les ai accompagnés dans comment on met ça dans l'espace, comment cette causerie, cette discussion, est-ce qu'ils se mettent face à face, à les moments où ils doivent être chacun plus en avant-plan, en arrière-plan, accompagnés en fait vraiment dans une mise en scène de gestes et d'espace. Le texte de manière à le rendre, j'allais dire, le plus simple possible, le plus de façon à ce qu'il parvienne le plus aux spectateurs pour que les spectateurs s'en emparent aussi. Et dans le fait aussi de donner à lire certains documents d'archives aux spectateurs et qui est ce dialogue qui commence déjà au moment du spectacle entre les voix de Marisa, de Stéphane et de certains spectateurs qui lisent certains textes historiques de l'époque.
Voilà, on va peut-être pas les lire ici parce que c'est mieux de les lire dans le contexte du spectacle. Si on les lit comme ça ici à l'antenne, ça peut faire un effet bizarre.
Sur Radio Libertaire, ça va faire super bizarre.
<C'est ça. rire>
Les gens vont chercher s'ils sont bien sur la bonne fréquence. Ils sont pas sur Radio Notre-Dame.
Oui. Alors, et j'imagine que bon, c'est une formule, disons, légère, comme vous l'avez déjà pratiquée en appartement, chez les gens, à domicile. Vous pouvez le faire, j'imagine, dans un bar, un spectacle qu'on peut faire partout, et même dans un théâtre. Quelque chose qui est assez mobile, n'est-ce pas, souple, qu'on pourrait installer un peu partout.
C'est l'idée, oui, c'est l'idée que cette chose puisse être vraiment représentée là où il y a juste besoin d'un espace pour Marisa, Stéphane et leur table, voilà, qui ne prend pas trop de place. Et effectivement, ça, c'est très, très intéressant de le voir en appartement, de le voir dans un amphithéâtre devant des lycéens, de le voir sur le plateau d'un théâtre. Ça ne résonne pas du tout de la même manière, on adapte un petit peu à chaque fois. Et les discussions qui sont provoquées ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est assez très plastique. En fait, on l'a conçu effectivement pour être quelque chose de plastique et qui s'adapte à tous les espaces. Et parce que enfin, cette histoire nous concerne tous et toutes de façon très présente et intime.
Ah oui, et je veux dire, la force et la justesse de tout ça vient bien sûr du fait que nous sommes dans une histoire authentique et personne ne peut arriver là et dire, mais vous fantasmez des choses. On est quand même dans le réel, dans ce qui s'est vraiment passé, et devant nous, eh ben, les personnes qui incarnent, qui héritent de cette histoire.
Oui, je disais, en fait, tu vois, sur le fantasme, je pense que la réalité est plus invraisemblable que la fiction. C'est-à-dire, plus on se plonge dans cette histoire coloniale, plus on en... Alors d'abord, effectivement, il y a des écoutes très différentes. Il y a des gens qui la connaissent. Généralement, les premiers concernés la connaissent, l'histoire coloniale, mine de rien. Les moins concernés la connaissent moins. Hein. Les Blancs la connaissent moins, c'est sûr. Mais plus on se plonge dedans, plus vraiment on se dit... Il y a quand même des abîmes de bêtises et de méchanceté. Je pense notamment, ça se traduit très pratiquement, par exemple, dans l'usage des corps. On s'est beaucoup posé la question des corps avec Marisa. Il y a comment on les représente ? Parce que, par exemple, dans ma famille, il y avait des photos de jeunes femmes tout à fait nues. Ça se faisait... Les explorateurs, entre guillemets, qui partaient, faisaient tous des photos de type humain. Et c'était demandé d'ailleurs par la société d'anthropologie française de fournir ces types humains. Alors, donc, l'indigène était nu, puis on le met d'un côté, de l'autre côté, à droite, à gauche, etc. Une fois qu'on a fait le tour du sujet, bon, on avait les quatre photos. Alors, comme il mettait un certain soin à faire les photos, parce que faire une photo avec une chambre comme ça, ça prend du temps, sur des plaques de verre, c'est souvent des belles photos. Elles sont bien faites. Ils sont donnés du mal pour la lumière, etc. Donc, dans ma famille, en fait, ces photos, elles étaient transmises presque comme des objets artistiques. Hein, c'était des photos d'art. Et pour Marisa, quoi, elle ne les voyait pas du tout. Parce que Marisa, la première à me faire remarquer, non mais attends, elle a quel âge ? Elle a 14 ans à tout casser. Bon. Donc ça fait bizarre, quoi. Et le fait est que la législation française va dans des détails incroyables, c'est-à-dire que sur les cartes postales, on peut envoyer des cartes postales avec des négresses à seins nus, pour dire les choses vulgairement, et c'est comme ça que c'est écrit, hein, alors qu'on n'a pas le droit d'envoyer que toute photo de femme nue, normalement, doit être mise sous enveloppe. Donc en fait, on ne considérait pas que c'était des femmes. Et ça, c'est la législation. On rentre dans un détail complètement bête comme ça, et on se rend compte que c'est des milliers et des milliers parce que de photos, d'images qui ont été faites et qui disent quelque chose de très violent, de répété, et qui reste ensuite dans l'inconscient.
Alors, vous avez joué ça à l'Épée de Bois, un théâtre de l'Épée de Bois, à la Catherine. Je me souviens d'un spectacle. Attends, c'était Torquemada, c'était justement. Au XVIe siècle, où il y avait ce débat qui faisait rage. Est-ce que les indigènes en Amérique du Sud, etc., est-ce que ce sont des humains ou pas ?
Ah ben.
Voilà. Vous êtes au bon endroit, là.
Vous êtes au bon endroit, au théâtre de l'Épée de Bois, puisque, ouais, comme je le disais, il y a ce souvenir que j'ai encore de ce spectacle autour de Torquemada et au XVIe siècle, ce procès qui essayait à établir si les animaux, les femmes, les exotiques, etc., si c'était des humains ou pas. Donc voilà. Vous êtes au bon endroit là, à l'Épée de Bois, évidemment, et puis après, tout autant au Palais de la Porte Dorée, au Musée de l'Immigration. Alors vous pouvez nous rappeler ces dates où on peut voir les spectacles et comment on va faire pour réserver ?
Oui. Alors, donc nous jouons le vendredi 4 novembre à 21h, le samedi 5 novembre à 16h30 et 21h, on joue deux fois le samedi, et dimanche 6 novembre à 16h30 au Théâtre de l'Épée de Bois. Et ben, vous pouvez réserver au 01 48 08 39 74. L'Épée de Bois, c'est la cartoucherie dans le bois de Vincennes. Et puis ensuite, on le joue au Palais de la Porte Dorée. Alors, pour mes amis ex-coloniaux, on appelait ça le musée colonial dans mon enfance. Voilà. C'est le jeudi 17 novembre à 20h et le vendredi 18 novembre à 20h aussi. Alors, c'est uniquement en ligne sur le site du Palais de la Porte Dorée. Et on joue aussi pour les habitants d'Essonne, on joue à Lys, au centre au centre culturel Jean Cocteau. Et la réservation.
Et la date.
Ah pardon, excusez-moi. C'est le mardi 22 novembre à 20h. Et la réservation, Marisa, je te rends tes lunettes.
Les réservations peuvent se faire au 01 69 11 40 10.
Bon, 01 69 11 40 10.
Et le mardi 22 novembre, c'est gratuit sur réservation.
Et je rappelle aussi que, alors, par rapport à ce théâtre, l'Épée de Bois, qui vaut le détour en soi,
oui, très bon.
Même s'il n'y a pas de spectacle, mais je rappelle aussi qu'il y a, je ne sais plus, 4 semaines, 5 semaines, là, je vous avais présenté Jacques Martial, qui a interprété au théâtre là, même. Il était tellement magnifique dans le Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Donc voilà, c'est bien. Il y a comme ça une continuité, quelque chose qui se tisse à l'Épée de Bois. Et pour y aller, bon, c'est clair, on va avec le métro à Château de Vincennes. Et puis on se positionne là où il y a le grand terminal de la RATP et entre ça et l'avenue qui fonce vers le bois de Vincennes, là on se positionne et là on voit le petit panneau de la navette de la cartoucherie. Voilà, c'est assez facile et sympathique, agréable. Voilà. Ben merci beaucoup d'être venu.
Il y a une station Vélib, c'est nouveau maintenant, en plus, à la cartoucherie. Donc, pour ceux qui veulent y aller en vélo, traverser le bois en vélo, c'est très très beau aussi.
Merci Stéphane, merci Marisa.
Merci.
Et merci à Corinne pour ton passage éclair, pour la revue éclair. Voilà, merci, c'était Tempête sur les planches, Radio Libertaire 89.4 avec Thomas Dambourg. Et donc dans deux semaines, là ça sera le 13 novembre, on va peut-être suivre cette affaire autour du Lavoir moderne parisien dans le 18e. Qui risque de se faire expulser. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver la page internet, le site du Lavoir moderne parisien. Et là, vous pouvez aussi signer la pétition pour s'opposer à cette, je ne sais pas comment appeler ça, cette bévue-là de la mairie de Paris ou de Habitat Social Français qui va expulser un théâtre. Voilà. Lavoirmoderneparisien.com, Lavoirmoderneparisien. Tout attaché. Voilà. C'était Tempête sur les planches sur Radio Libertaire 89.4.
toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parlais d'elle, de de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle. Maintenant disparu, toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce toi qui me dis tout. un pigeon tombe du rocher. Quel est donc ce bruit de branche que l'on traîne sur le plancher? C'est le grand lustigru qui passe et c'est moi qui le viens chercher. Moi, parce que ce soir je ne dors guère, moi, parce que ce soir je ne dors pas. Pour la première fois, c'était en février, mais il ne faisait pas froid. Les clochards somnolaient sur la grille fumante et les moulins tournaient dans la nuit murmurante. J'étais avec Raymond qui m'a dit: mon colon, il faut que tu constates qu'il n'y a rien comme la rue Watt, la rue Watt. Une rue bordée de colonnes où il n'y a jamais personne, il y a simplement l'air des voies de chemin de fer. Où passent des lanternes tenues par des gens courts dont les talons qui sonnent sur ces années grillées. Sur ces colonnes de fonte qui viennent du Parthénon, on l'appelle la rue Watt, parce que c'est la plus basse de la rue. C'est une rue couverte, c'est une rue ouverte, c'est une rue déserte qui remonte tout debout. Des chats décolorés filent en prise directe sans jamais s'arrêter parce qu'il n'y pleut jamais. Le jour c'est moins joli, alors on vient la nuit pour drainer ses savates le long de la rue Watt, la rue Watt. Des rues dont on cause, qu'ont pourtant pas grand-chose, des rues sans caractère, juste un peu putassiennes. Mais au bout de Paris, près de la gare d'Austerlitz, vierge et vague et morose, la rue Watt se repose. Un jour j'achèterai quelques mètres carrés pour planter mes tomates là-bas dans la rue Watt, la rue Watt.
Tous les fruits, tous les agrumes ont une reporte sauf un pour réparer une injustice dont notre poésie souffrait. Je veux rendre à une mère son fils et chanter bien haut le navet. Le navet n'avait jamais de toute l'histoire connu cette gloire. Le navet jamais n'avait jouis, je pense, d'une telle audience. On va de succès en succès dans le commerce du navet. Il a dans la culture latine le premier rang de production. Le navet seigneur des cuisines pousse bien dans les micro-sillons. Il se reproduit par osmose, on le plante en toute saison.
Après les semailles, on l'arrose et puis on attend la moisson. Le navet n'avait jamais de toute l'histoire connu cette gloire. Le navet, jamais navet jouit, je pense, d'une telle audience. Et puis c'est un produit français. Amis, chantons, vive le navet. Le navet, le navet, le navet, le navet.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles.
Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras, Léonce. Tu n'as rien demandé, mais t'es sûr de ma réponse. Quand on aime si fort depuis si longtemps, misère. Qu'est-ce qui reste encore contre les sentiments à faire? Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras, Léonce. Tu n'as rien demandé, mais t'es sûr de ma réponse. Une fille, ça ne peut pas résister si dur qu'en brille. De toute sa fureur, l'amour en feu sur une fille. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras, Léonce.
douce. Tu n'as rien demandé, mais t'es sûre de ma réponse. Goûte, pille et bois, ombre, bouche et sein, au pille. À la soif d'amour, c'est comme du raisin, une fille. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras, Léonce. Tu n'as rien demandé, mais t'es sûre de ma réponse. J'ai fini de penser, c'est plus que ton envie, ma vie. Juste bonne à tuer quand ça se déshabille, une fille. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras, Léonce. Tu n'as rien demandé, mais t'es sûre de ma réponse. Quand on aime si fort depuis si longtemps, misère. Qu'est-ce qui reste encore contre les sentiments à faire? Une fille, ça ne peut pas résister si dur qu'en brille. De toute sa fureur, l'amour en feu sur une fille. Goûte, pille et bois, ombre, bouche et sein, au pille. À la soif d'amour, c'est comme du raisin, une fille. J'ai fini de penser, c'est plus que ton envie, ma fille. Juste bonne à tuer quand ça se déshabille, une fille. Léonce, une fille. Léonce.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, être sans être tout à fait, le cas Olrich. Tout le monde le connaît, le colonel Olrich est l'ennemi juré de Black et Mortimer, les deux célèbres héros de bande dessinée inventés par Edgar P. Jacobs. Olrich est cruel, sournois, opportuniste, globalement sans scrupules, et sa perversité est à symétrie sphérique, au sens où elle est la même, quel que soit le point de vue depuis lequel on l'examine. Heureusement, ce personnage n'est qu'un personnage de fiction. Sauf qu'en fait non, ce n'est pas vrai, il a bel et bien existé. C'est ce qu'ont pu démontrer deux chercheurs persévérants, à l'issue d'une longue enquête qui les a beaucoup fait voyager, sur Terre et dans les archives. Ces deux chercheurs ont le même patronyme, car l'un est le fils de l'autre. Ce nom, c'est Devenir. Non, pardon, c'est Védrine. L'anagramme de Devenir, mais faut pas confondre les deux mots. Le premier est Hubert Védrine. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Vous êtes donc ancien ministre des Affaires étrangères. Entre autres choses, vous êtes bien connu de tout le monde, notamment des auditeurs de France Culture. Et je crois que dans certains endroits, vous vous définissez comme un fan de la ligne claire. Est-ce que c'est un terme politique ou est-ce que c'est un terme de dessin?
Non, fan est trop fort parce que ça fait partie de mon environnement, mon mode de vie, ma famille, la culture de mon enfance. Je pensais pas être un fan, je pensais que c'était normal de dévorer les Tintins, les Jacobs.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle la ligne claire?
Ben, la ligne claire, c'est ça, mais je ne le savais pas, quoi. Je suis pas devenu fan pour être fan comme... On parlerait d'un groupie pour une vedette, vous voyez.
Ah, d'accord.
C'était l'oxygène et l'air que je respirais, voilà.
Donc on dessine l'ombre des véhicules dans cette façon de faire de la bande dessinée, mais on ne dessine pas l'ombre des personnages. Ça vous semble cohérent?
Ils sont bien dessinés, en général. Il y a un contour, c'est pas flou, vous voyez. C'est très construit, en plus. C'est la grande bande dessinée belge, en fait, à l'origine. Hein, c'est Hergé Jacobs. C'est des grands maîtres.
Est-ce qu'ils pratiquent la ligne claire de la même façon ?
Pas tout à fait. C'est plus clair au sens, c'est plus net et plus simple dans Hergé. Mais ça le reste énormément dans Jacob. Et puis on peut le retrouver après dans des successeurs. La bande dessinée s'est développée de façon incroyable. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 000 par an. C'est tout un monde en soi. Mais enfin, il y a une continuité. La série qui s'appelait Les 7 vies de l'épervier, illustrée sublimement par André Juillard, par exemple, c'était encore de cette famille-là. Mais c'est un courant minoritaire, on va dire, aujourd'hui. Mais c'est celui de mon enfance. Moi, j'ai découvert une partie du monde à travers ça.
On y reviendra, évidemment, mais je veux d'abord présenter le deuxième Védrine, qui, lui, se prénomme Laurent. Bonjour.
Bonsoir, Étienne.
Vous êtes réalisateur, journaliste, apiculteur urbain.
Apiculteur urbain.
C'est-à-dire
oui. Ça veut dire que je m'occupe des abeilles dans la ville.
Et vous êtes également auteur de documentaires, vous êtes vélosophe.
Absolument.
J'ai reçu récemment un coureur cycliste professionnel qui a écrit un livre de philosophie qui lui se présente comme cyclosophe.
Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre vélosophe et cyclosophe ?
La vélosophie sous-entend qu'on appartient au collège de vélosophie, qui a été fondé par un dessinateur d'ailleurs de bande dessinée, qui s'appelle Didier Tronchet, qui est un peu le pape de la vélosophie. Et moi, je fais partie de ses adeptes. C'est une pratique qui consiste à percevoir le monde en mouvement et en équilibre sur un vélo.
On m'a dit qu'un nouveau courant allait traverser cette philosophie qui s'appelle la nouvelle vélosophie. Vous confirmez ?
La nouvelle vélosophie, oui, mais il y a toujours des gens qui cherchent à contester ce que les anciens ont patiemment essayé de construire en termes de sagesse. J'ai entendu parler de cette nouvelle vélosophie, mais je ne sais pas jusqu'où elle va nous mener. En tout cas, j'espère qu'ils continuent à tenir leur guidon.
En tout cas, je vous ai invité Hubert et Laurent Védrine pour ce livre que vous venez de faire paraître, qui s'intitule « Olrik, la biographie non autorisée ». Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il y a d'autres biographies qui font concurrence à la vôtre ? Est-ce qu'il y a une guerre parmi les biographes sur la trajectoire de ce personnage dont vous avez démontré l'existence à